Frères et sœurs, chers amis, je voulais tout d'abord vous saluer toutes et tous de la part du Conseil de la Fédération protestante de France et vous dire combien je suis reconnaissant pour ce que vous faites aujourd'hui et pour ce culte auquel le Seigneur nous invite. Je voulais aussi vous dire que ce texte de la Genèse est un texte extraordinaire qui ouvre la Bible, mais rassurez-vous, même s'il se termine par un événement tragique, précisément il ouvre le texte de la Bible, il y a donc un avenir. Et puis je voulais vous dire aussi qu'à l'occasion du culte de la cité, un culte qui finalement devrait être hebdomadaire, un culte ouvert sur la cité, nous pouvons rappeler en quelques mots les raisons d'être de cette parole publique du protestantisme dans la cité. Nous pouvons redire à cette occasion les engagements de chacune et de chacun d'entre nous au nom de la foi, la responsabilité et la liberté qui sont la nôtre pour témoigner du Christ dans le monde qui nous est donné. Vous dire aussi combien, dans le cadre de la laïcité qui a été rappelée tout à l'heure, dans le cadre de nos responsabilités citoyennes, chacune et chacun est appelé à vivre son engagement fraternel auprès du plus vulnérable, auprès du handicapé, auprès de l'exilé, auprès de l'exclu et du plus fragile. Alors ce texte de la Genèse nous raconte une brève, très brève histoire, la première histoire fraternelle. Une histoire qui parle donc de fraternité, qui parle finalement de nos fraternités, qui parle de nous, qui parle de nos vies. Peut-être avez-vous des frères et des sœurs. Peut-être êtes-vous frère aîné ou sœur aînée. Peut-être êtes-vous frère cadet ou puîné ou sœur cadette ou benjamine. Cette histoire est notre histoire en vérité. Elle parle de nos vies heureuses et malheureuses, de nos voisinages familiaux, faciles et pourtant si vite conflictuels. Cette histoire parle de nos couples aimants et vacillants. Cette histoire parle de nos enfants que nous croyons connaître et que nous découvrons jour après jour, fragiles et eux aussi souffrants. Cette histoire parle de notre cité vulnérable elle aussi. Ce récit parle de nous et j'aimerais vous proposer de lire la Bible comme si elle parlait de nous-mêmes et non pas de quelqu'un d'autre. Elle parle de nous, de nos vies blessées, de ce que j'appelle nos larmes intérieures, connues de nous seuls et dont nous ne parlons à personne. Elle parle aussi de nos vies brisées, de notre vivre ensemble que nous croyons si beau et qui est pourtant fracturé. Cette histoire est notre histoire. La Bible est réaliste à cet égard. Elle ne ment pas. Elle dit ce qui est. Elle n'est pas le dernier mot, comme je le disais en commençant cette méditation. Elle est au chapitre 4, mais le livre de la Genèse contient 50 chapitres. Et après la Genèse, il y a encore tant de livres, comme pour suggérer au lecteur que nous sommes, ou à l'auditeur que nous sommes, qu'il y a donc un avenir possible, y compris après que le pire a été commis. Ici, le meurtre fratricide. Comme pour dire qu'une promesse est contenue dans ce petit récit, la promesse d'une histoire qu'il faut vivre après l'événement. Et même si l'on ne saura jamais vraiment pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non pas sur l'offrande de Caïn. Même si nous donnions toutes les justifications possibles pour trouver des excuses à Dieu, qui aurait finalement raison de préférer une offrande animale, celle d'Abel, qui est plus élaborée, évidemment, les premiers-nés d'un troupeau avec de la graisse, alors que celle de Caïn, plus simple, une offrande végétale, peut-être comme le suggère la tradition rabbinique, un peu moins bien préparée, peut-être même jetée à même le sol. Il reste que ce regard posé sur l'une et non pas sur l'autre, ce regard posé sur l'un des frères et non pas sur l'autre, instaure chez l'un d'eux un sentiment d'incompréhension, d'abord, et puis ensuite d'injustice, et finalement de colère. Et ce sentiment d'incompréhension, d'injustice et de colère est celui que chacun d'entre nous a déjà ressenti, sans doute dans sa propre famille, s'il a bien observé ce qui brûlait en son cœur, pour des broutilles parfois, ou pour des choses importantes. Nos vies sont ainsi marquées par un tel malaise, par ce quelque chose qui ne va pas. Dans une famille, même la plus belle, une famille parfaite, vous savez, la famille des voisins, celle qui est évidemment bien plus unie que celle que nous essayons de former. Quelque chose qui ne va pas. Comme dans ce récit de la Genèse, toujours un chapitre avant, où il y a un serpent déjà dans le jardin, on ne sait pas pourquoi, d'où il vient. Un serpent terrible dans un beau jardin. Comme dans la tragédie d'Hamlet, vous savez, il est dit « tout ne va pas bien ». Tout ne va pas bien. Oui, le récit de la Genèse, dans ce chapitre 4, parle de notre identité faite ainsi de toutes ces choses, faite de ce mal-être, d'incompréhension, de sentiment d'injustice, de colère. Ce récit est comme un récit d'initiation, finalement, pour nous aider à grandir, s'il était encore possible. Ce récit est comme un conte pour adultes. La fraternité y est mise à l'épreuve, car depuis son origine, nous dit le texte, eh bien c'est ainsi. Elle est éprouvée. Quoi que vous fassiez, la fraternité n'est pas facile. Elle est mise à l'épreuve, la famille y est mise en danger, et Dieu sait si l'actualité nous le rappelle quotidiennement. La famille est le lieu de la violence, comme la société. La cité des hommes est mise en péril par ces sentiments d'injustice, de colère, de jalousie. Et la tragédie est là, toujours, comme un déjà-là. Elle est là, elle a été racontée dans ce petit récit en quelques versets, exactement comme a été racontée la tragédie grecque dans les textes classiques. Peut-être que certains d'entre vous ont appris cela au lycée ou à la faculté, vous savez, les grandes tragédies classiques, exactement à la même époque, exactement à la même époque. Dans ce 5e siècle avant Jésus-Christ. Caïn et Abel, c'est une tragédie grecque, raccourcie, dans un théâtre biblique. Deux frères, deux hommes libres, deux hommes à égalité. On pourrait imaginer que, bien que l'un soit l'aîné de l'autre, cette égalité ne produise pas une rivalité, mais c'est ainsi. L'un d'eux fera le choix sans aucun argument. Parce qu'il n'y a aucun argument, fera le choix de l'affirmation identitaire au point de tuer l'autre, au point de nier l'identité de l'autre. Vous savez, dans la tragédie grecque, chaque protagoniste possède ou croit posséder un droit à faire valoir, un droit absolu, à faire valoir devant les dieux et devant les hommes. Eh bien, dans notre récit biblique, ce qui est en jeu, c'est la revendication d'une reconnaissance, celle de l'égalité, l'égalité des offrandes. L'égalité des offrandes. Et cette tension tragique entre l'égalité revendiquée et la rivalité, une rivalité exacerbée à cause de ce qui est perçu comme une injustice, cette tension-là est constitutive de l'intrigue. C'est ce qui nourrit nos vies en vérité. Et la question posée est alors la suivante. Devant ce sentiment d'injustice, l'identité, celle de Caïn, autrement dit la nôtre, serait-elle mise en cause à ce point que la seule solution soit le recours à la violence? Que la seule solution soit le refus du dialogue? Parce que dans le texte biblique, nous ne savons pas ce que se disent les deux frères. Sortons et puis le texte est silencieux. Et comme le disent les psychologues qui ont attendu quand même le 19e siècle pour cette évidence, lorsqu'on ne parle pas, ce sont les actes qui parlent. Devant le sentiment d'injustice, Ce sentiment d'injustice, c'est celui qu'analysent les politiques dans notre société. C'est celui qu'analysent les syndicats. C'est celui qu'essayent de contenir les autorités. Devant ce sentiment d'injustice, devant ce sentiment de déclassement, c'est un peu ce que ressent Cain. Ce sentiment de déclassement tel que les sociologues le décrivent. Devant ce sentiment de perte, c'est ainsi que parlent là les psychologues. La perte, l'échec, la tristesse. Est-ce que tout va s'effondrer? Est-ce que tout va disparaître? Est-ce que le discernement, la raison, la délibération, l'intelligence va disparaître? À cause de ce sentiment, faut-il forcément passer à l'acte sans le truchement de la parole et devenir extrémiste? Au fond, on pourrait dire que Cain est le premier djihadiste, le premier extrémiste, le premier radical, qui ne discute pas, qui n'interroge pas, qui ne s'interroge pas. Faut-il rester dans la confrontation sans trêve, supprimer l'autre différent? Faut-il, alors là je parle à des protestants et peut-être à d'autres, faut-il l'excommunier? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Faut-il refuser donc la fraternité? Eh bien, je veux lire ce récit de la Genèse au sujet de Cain et Abel, non pas tant comme une tragédie grecque, rassurez-vous, et il ne s'agira pas de faire ici une étude littéraire, que comme une parabole, c'est-à-dire une parole, simplement une parole. Et je propose d'y trouver une bonne information, une bonne nouvelle qui sera le sujet d'un étonnement et peut-être aussi d'une joie pour chacun de nous. Notre identité, parce que la question qui est posée à Cain est celle-ci. Notre identité ne se fonde pas dans la méchante revendication d'une égalité avec d'autres hommes, ou d'un droit à leur égard, ou d'un passe-droit. Notre identité, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, dans ce temple. Notre identité est placée en Christ, et non pas en nous-mêmes. Notre identité est placée sereinement en Christ, lui qui précisément a été déclassé, cassé, défiguré, déshumanisé, déchu, désarticulé, celui qui a été désinscrit en quelque sorte de la liste des humains, en lui, qui n'a plus rien à faire valoir. En lui, nous avons notre identité, parce que lui a été relevé d'entre les morts, a été relevé de ce néant dans lequel il avait été plongé. En lui, nous n'avons vraiment rien à revendiquer ni à faire valoir. En lui, nous croyons que nous n'avons rien à faire pour être acceptés. Rien à faire. Même pas une offrande. Alors, je ne sais pas s'il y a une offrande tout à l'heure. Alors, on va discuter de la terminologie. Ne vous sentez pas empêchés de... Mais il s'agit ici donc d'une offrande qui attendrait au fond un bénéfice en retour, cette offrande que Cain et Abel veulent donner à Dieu. Eh bien, ni offrande, même la plus délicieuse, ni œuvre, parce qu'au fond c'est de cela qu'il s'agit, ni œuvre, même la meilleure, ni bonne doctrine, même la plus orthodoxe, la plus carrée, la plus cohérente, la plus libérale, la plus ouverte, ni la meilleure doctrine ne fonde notre identité. Notre identité est en Christ, celui qui a été rejeté et méprisé par tous. Et si celui-là, précisément, objet de dérision, de condamnation, a été le premier relevé d'entre les morts, le premier réhabilité, alors, avec lui, nous le serons sans aucun doute. Et nous n'avons pas besoin de presser le pas. C'est lui qui décide le jour et l'heure. L'identité n'est donc pas fondée dans notre capacité à exprimer notre raison d'être par une doctrine, par une performance, comme on dit parfois, par une offrande, comme Cain s'en inquiétait jadis au point de tuer son frère. Notre identité ne se fonde pas dans une autonomie que nous revendiquerions tel un héros, pas non plus dans le pouvoir d'une institution prestataire de biens sacrés qui promettrait le salut, mais en Christ seul. De sorte que l'histoire de Cain et Abel, ce petit récit très bref de la Genèse, nous alerte et nous met en garde contre quelque chose que nous vivons dans notre monde, en ce moment même. L'histoire de Caïn et Abel nous alerte et nous met en garde contre le fondamentalisme, précisément, qui revendique la vérité pour soi, au prix de la violence symbolique et parfois de la violence réelle. Et je parle ici du fondamentalisme chrétien, juif, musulman, bouddhiste, laïque, tout fondamentalisme qui croit que parce que la vérité s'impose à soi, elle doit s'imposer à l'autre. Cette histoire nous alerte contre tous les extrémismes, contre ce que nous pouvons appeler les réarmements, et le mot est très fort, les réarmements identitaires qui, sous couvert de cohérence doctrinale, humilient et parfois même tuent. L'identité, donc, en Christ. Et c'est depuis longtemps que le christianisme essaye de dire cela. L'identité est offerte, reçue, non pas acquise. Et Martin Luther le rappellera, cette identité est offerte gratuitement, sans que vous n'ayez rien à faire, rien à prouver, rien à montrer, rien à payer. Cette identité chrétienne, ainsi offerte, nous permet de vivre sereinement, libre et responsable dans la société des hommes, pour témoigner précisément de cette liberté offerte. Dans cette perspective ici protestante, je crois que l'on peut affirmer alors, et c'est vers cela que j'aimerais vous mener ce matin, je crois que l'on peut affirmer que la foi, puisque l'on parle de foi quand on est chrétien, du moins il faut essayer de le faire un petit peu, la foi est confiance, confiance. Qu'elle n'est pas obscure ou méchante. La foi est confiance. Elle ne se laisse pas renvoyer du côté de l'obscurantisme et de la revendication, du côté de l'obligation ou de l'obéissance forcée. La foi n'est pas obscure, elle est bien du côté de l'intelligence et de la confiance, du discernement de ce qui advient. Croire, disait Paul Ricoeur, c'est penser. Alors il avait des formules très compliquées, Paul Ricoeur, mais celle-là est simple. Vous voyez, croire, c'est penser, c'est-à-dire allier dans son cœur la confiance et le discernement. Ne pas croire n'importe quoi et ne pas se croire soi-même. Croire, c'est penser, c'est ouvrir son intelligence contre Caïn, précisément. Pour qui croire en revient toujours à se justifier devant les autres, y compris par la force, et donc toujours à se comparer. Ma foi est bien meilleure que la tienne, bien plus juste, bien plus près de la vérité. Et par conséquent, tu es mal barré. Croire et penser, prier et discerner, être convaincu, bien sûr, mais réfléchir. Fides et ratio, c'est une histoire ancienne dans l'histoire de l'Église. La foi et la raison, ces deux sœurs jumelles qui se chamaillent depuis l'origine des temps, même si elles se déchirent parfois, sont ici, à vrai dire, inséparables. Alors je reviens à la page de la Genèse pour terminer, et qui rapporte cette phrase de Caïn au moment où on lui demande où est son frère, l'Oyadarti. Alors il y a des hébraïsants ici parce qu'il y a l'église adventiste. Alors je sais que les adventistes sont très proches des textes bibliques. Enfin, il y a aussi des baptistes et des réformés qui ont fait de l'hébreu. Et peut-être que le préfet ou le maire connaissent la langue hébraïque. Lo yadarti. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est mon frère. Je ne veux pas le savoir. Et vous comprenez l'actualité de cette réponse de Caïn. Lorsque nous traversons la rue et que nous voyons l'homme qui tend la main, je ne sais pas, je ne veux pas voir. Lorsque certains traversent la Méditerranée et se noient, je ne veux pas le savoir. Lorsque l'enfant est humilié dans la famille, je ne veux pas le savoir. Lo yadarti. En une forme de mensonge, de l'indifférence, et qui en rajoute même avec cette deuxième phrase en hébreu. Alors là, c'est pour vous ennuyer un peu, juste, ou pour vous réveiller. Hachomer Ari Anoki. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? Sur un ton vraiment étonné et agacé, alors qu'il sait très bien ce qui vient de se passer. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Alors je suggère que ce message contenu dans cette page invite à répondre précisément positivement et avec courage et sérénité, puisque nous sommes libres, libres et dans la confiance. Je sais, oui, je sais bien où est mon frère et ma sœur. Je le sais en vérité. Je le vois. Et oui, je suis le gardien de mon frère et de ma sœur. Et alors s'ouvre la perspective de l'action citoyenne fondée sur la foi chrétienne. Une action responsable dans la vie de la cité pour que la promesse que j'évoquais au tout début de ce message se réalise et nous fasse passer d'une fraternité assassine, enfin, à une fraternité réconciliée. Alors je vous propose un petit test. Ça marche à tous les coups, mais je vais quand même le vérifier encore une fois aujourd'hui. Vous tournez la tête à gauche et à droite, maintenant, là, tout de suite, et vous regardez la personne qui est à votre droite et à votre gauche, dans les yeux, mais pas plus d'une seconde, sinon ça devient l'agression, vous savez, c'est... Vous l'avez vu, votre voisin ou votre voisine de gauche ? Vous avez repéré qu'il y avait à votre gauche et à votre droite un frère et une sœur. C'est à vous d'inventer la suite. Amen.